Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Dans Jean 6, 63, il dit ceci, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et les paroles que Jésus a dites ont été consignées, ont été écrites. Et donc, ces écrits-là sont aussi esprit et vie. Quand on lit la parole de Dieu, on reçoit la vie. Mais pourtant, quand on lit, ça semble être des lettres comme ça, figées. Mais après, on reçoit la vie. Quand tu as très faim et que tu manges du pain et tu bois du lait, tu sens en toi comme une vie qui revient. Pourtant, le pain, il est sans vie lui-même, apparemment. Pourtant, le lait, il est inerte. Il ne bouge pas. Mais dès que tu manges le pain, tu bois le lait, tu te ressens vivre. Mais c'est la même chose avec les Écritures. Tu lis, ça semble figé, bloqué, mais quand tu lis, quand ça entre en toi, tu reçois la vie. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas une question de blablabla. C'est une question de puissance et de vie. Bien-aimés, tous ceux qui négligent la parole de Dieu, vous allez voir qu'ils vivent une mort dans leur vie. On les sent mourir petit à petit. Ils peuvent toujours paraître chrétiens. Nous nous souvenons d'une église dans l'Apocalypse à laquelle le Seigneur dit « Tu parais vivant, mais tu es mort. » Tu es mort. Tu sembles bouger, mais tu es mort. Pourquoi ? À cause de la négligence de la parole de Dieu. Quelqu'un peut sembler chrétien, mais quand il néglige la parole, vous allez sentir dans sa vie des blocages, des difficultés. Il y aura toujours des problèmes. Et peut-être pendant 2 ans, on ne verra pas ça. Mais après un certain temps, on verra que cette personne avait misé sur autre chose que la Bible. Voilà les conséquences. C'est la mort qui s'installe. Bien-aimés, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et cette parole a été consignée, c'est ce qu'on appelle les Écritures. Elles sont esprit et vie. Et nous allons prendre un premier exemple. Donc nous allons prendre quelques exemples dans la Bible que la Bible parle d'elle-même. Ça fait partie des règles d'interprétation de la Bible. C'est la Bible qui parle de la Bible et qui explique la Bible. Et dans 2 Rois, au chapitre 2 Rois, au chapitre 22, dans 2 Rois, au chapitre 22, au verset 3, il est écrit ceci. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierre, de taille nécessaire aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui se sont, de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur, « Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Nous vivons une époque où le temple de Dieu est délaissé. Nous vivons une époque où Israël est dans une sorte d'apostasie, de recul par rapport à la foi. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Mais pourtant, il y a encore des sacrificateurs. Et on peut voir comme nous, aujourd'hui, il y a des pasteurs. Il y a des apôtres en grande quantité. D'ailleurs, on les voit encore mieux qu'autrefois. Il suffit d'allumer les télévisions pour les voir. On les voit partout. On voit des CD chrétiens partout. Mais malgré cette activité-là, donc ici, on parle bien d'un souverain sacrificateur. Malgré cette activité, c'était une époque d'apostasie, de recul par rapport à la foi. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas les écrits. Donc chacun faisait, donnait des explications sur Dieu, faisait un travail comme il voulait, comme il pouvait. Et à notre époque, il y a des gens qui font du travail comme ils peuvent, mais souvent dans un esprit de malhonnêteté, dans un esprit de détournement du peuple de Dieu pour leur propre intérêt. Mais il y en a aussi qui travaillent pour Dieu dans une logique charnel, même s'ils sont bien intentionnés. Vous voyez, il y a des gens qui vous diront, « Mais tiens, ces passages bibliques-là sont trop durs. Ce n'est pas pour notre temps. » Mais même si ce n'est pas quelqu'un de mauvais en soi, mais il a décidé de faire comme il voulait lui-même. Donc, en quelque sorte, il devient mauvais parce qu'il néglige la parole de Dieu. Donc, il a négligé complètement de appliquer totalement la parole de Dieu. Et nous voyons ça dans beaucoup d'églises, où il y a des pasteurs qui sont peut-être bons, mais qui négligent d'appliquer totalement la parole de Dieu. Et c'est l'époque presque qu'on retrouve dans cette partie du livre des rois. Mais il y a eu un roi qui a été mis au trône, il s'appelait Josias. Lui, il a eu souci de Dieu. Il a dit, on doit réparer la maison de Dieu. On doit arranger le temple de Dieu. Il a eu à cœur que les choses changent. Toi aussi, tu devais être comme Josias. Avoir à cœur que la vérité soit établie. C'est qu'on a, c'est que vous savez, quand Gédéon devait aller combattre pour Dieu, il pleurait, il disait à Dieu, « Mais autrefois, on apprenait que tu travaillais d'une manière puissante avec nos ancêtres. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. On ne voit plus la droiture. On ne voit plus la puissance d'Israël. » Et nous aussi, nous devons dire la même chose. Moi, quand j'étais païen, je respectais les chrétiens. Il y avait une différence entre moi, païen, et les chrétiens de l'époque. Il y avait un réveil dans mon pays d'origine qui faisait qu'il y avait une différence claire entre païen et chrétien. Et donc le païen était mal à l'aise devant le chrétien. Parce qu'il n'y avait pas encore les grands bishops. Quand il y a eu l'époque des grands bishops avec des grosses églises, grands bishops c'est grands évêques, hein, grands pasteurs avec des grosses églises, l'argent a pris le dessus sur les choses. Les chrétiens ont maintenant un comportement comparable aux païens. Les païens se moquent maintenant des chrétiens parce que les chrétiens sont pris dans le piège de la prospérité, dans le piège du succès, dans le piège, de la politique. Aujourd'hui, on trouve des pasteurs qui sont députés, qui sont... Alors, on n'est pas contre la politique, mais quand tu es pasteur, quand même, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Un chrétien peut accéder à certains postes, mais toi, pasteur. Et C'est le désordre. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus comme au début du réveil, ils étaient attachés à la Bible. Aujourd'hui, les gens sont attachés à leur église, attachés à la réussite du ministère de leur pasteur. Ils ne sont pas attachés à la Bible. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans une église de 15 personnes, il est mécontent. Il voudrait bien être dans une église de 1500 personnes, que son pasteur passe à la télé. Donc, on ne suit plus la Bible, la vérité, mais on suit tous les attraits du monde. Mais on met ça dans le cadre des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a négligence par rapport à la parole. Parce que si on suivait la parole, on verrait notre grand maître lui-même, Jésus, marcher avec 12 disciples. On n'aurait pas honte d'être dans une église de 30. Parce que Jésus lui-même était avec 12. Jésus lui-même a été crucifié. Il a été humilié. Il a semblé n'avoir plus de succès. On n'aurait pas honte d'être 4 à prier. On n'aurait pas honte de ne pas passer à la télé. On n'aurait pas honte de ne pas faire un CD quand on est chantre. Parce que dans la Bible, il n'y a pas les CD avec le succès et tout ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui chantent. Moi, je ne les appelle pas des chrétiens, c'est des aventuriers, mais qui se disent chrétiens, qui chantent à l'inauguration des événements du monde. Vous allez apprendre festival de la musique dans un pays d'Afrique, je cite le pays, bon, on va tout casser. Donc, festival de la musique du monde au Congo, eh bien, c'est une chanteuse chrétienne qui fait l'inauguration. Moi, j'ai dit, mais tiens, ce ne sont pas des chrétiens, des aventuriers. On va les débisquer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, il n'y a pas de mélange à faire entre les ténèbres et la lumière. Les gens du monde vont prendre de la magie pour faire des fétiches. Et toi, le chrétien, tu viens chanter à l'inauguration d'un festival du monde. Et moi-même, j'ai été témoin. Ça, moi-même, j'ai vu. Mais même l'autre aussi, j'ai vu à la télé. Mais ça, j'étais sur place, dans l'autre Congo. Je vois un Coréen, un certain Jerok Lee. Je cite son nom parce que ses défauts sont trop graves. Un certain Jerok Lee qui fait une campagne d'évangélisation. Il promet qu'il y aura des guérisons, des miracles. Ça passe à la télé. Et c'est lui qui va faire les miracles, ce n'est pas Jésus. Mais tout ça, ça passe pour le compte des chrétiens, sur le compte des chrétiens. Et ce jour-là, je vois à la télé un musicien du monde, de ce pays-là, qui prétend qu'il a une telle magie que personne ne peut le rivaliser contre lui. Je vois ce musicien-là chanter parmi les chanteurs dans cette campagne d'évangélisation. Je dis, ce n'est pas possible. C'est le monde à l'envers. C'est comme si Johnny Hallyday venait chanter ici quand même. C'est le monde à l'envers. Un sataniste avéré qui va chanter au milieu des chrétiens qui combattent le diable. C'est le monde à l'envers. Mais bien aimé, on a cherché le miracle ce jour-là. Il a cherché le miracle. Ouais, qui peut témoigner d'un miracle? Personne. Il a cherché. Mais il n'y a pas quelqu'un là. Personne. Je dis, mais voilà. Les escrocs, tôt ou tard, Dieu les rattrape. Toi qui aimes la vérité, ne te décourage pas. Tôt ou tard, les escrocs seront dévoilés et confondus par le Seigneur. Personne ne peut battre le Seigneur. Le Seigneur a toujours le dernier mot. Bien-aimé, tout ça, c'est quoi? À cause de la négligence de la parole. Parce que quand tu lis la Bible, tu ne vois nulle part Dieu dire que je veux que toi, frère ou sœur, tu aies beaucoup de succès. Ce n'est pas écrit. D'ailleurs, lui, il dit dans la parole qu'il ne donnera lui sa gloire à personne. Quand tu lis dans la parole, tu vois nulle part où Dieu dit, je veux que vous tous vous soyez riches comme Salomon. Ce n'est pas écrit. Aujourd'hui, ils disent, mais non, nous suivons Salomon. Mais non, vous êtes chrétien, vous devez suivre Jésus. Voilà. C'est ça la vérité. Tout ça, le défaut de quoi? De la Bible. Les gens ne prennent plus la Bible au sérieux. Ils se font berner et avoir par les faux serviteurs. Et d'autres serviteurs qui sont vrais se font avoir par les faux parce que les vrais veulent tellement eux aussi réussir comme les autres qui sont faux. Alors, ils vont suivre leur méthode, bien-aimés. Il y a des gens qui vont te dire, Mais non, je ne veux pas dire la vérité, parce que si je dis trop la vérité, les gens vont quitter l'église. Mais nulle part c'est écrit dans la Bible, il faut que les gens soient à l'église. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et il n'y avait personne. Et quand il a vu du monde, il s'est même fâché. Qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez vous rassembler autour de moi. Il ne faut pas venir comme si j'étais une vedette. Hein. Il faut changer de vie. Voilà. C'est clair, bien-aimé. Il faut que nos prédications arrivent à chasser certaines personnes. Si la prédication ne chasse plus les gens, donc il y a un problème. Le but, ce n'est pas rassembler les gens. Le but, c'est de sauver. Mais si quelqu'un vient t'écouter comme si tu étais une vedette, c'est pas bon. On doit écouter la parole de Dieu. Nous, nous sommes que des instruments. Nous ne sommes pas des vedettes. On écoute la parole de Dieu. On laisse que ça transforme nos vies. Alors, si tu écoutes et tu ne veux pas que ta vie soit transformée, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois écouter dans le but que ta vie soit transformée. Tu ne dois pas écouter pour apprécier l'éloquence de quelqu'un. Tout ça, c'est la négligence de la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, bien-aimés, aux Écritures. Et le diable a tout fait pour faire croire aux gens que la parole de Dieu, c'est ce que disent les humains. C'est ce que disent les humains quand c'est vraiment de Dieu. Mais Dieu nous a donné à nous tous une base, un héritage immense, c'est les Écritures, la Bible. De sorte que toi et moi, nous ne soyons pas orphelins. Tu aies toujours la référence à côté de toi. C'est la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, quand on a commencé la prière pour préparer ce séminaire, le lundi, on était à jeun dans la prière et quelqu'un a lu la prédication du jour. Les gens qui ont les calendriers, qui ont une prédication par jour, la prédication parlait justement des écrits. Un homme n'avait qu'une feuille de l'évangile de Marc et une feuille de l'évangile de Luc. En lisant ces deux feuilles, il s'est converti. Non seulement il s'est converti, il a converti d'autres personnes. Il y a eu un mouvement, rien qu'en lisant les Écritures. Et c'est ce que nous lisons, vous et moi, maintenant, dans le cas de Josias. Il vivait un temps de détresse en Israël, spirituel. Et Josias décide de faire changer les choses. Il envoie de l'argent au sacrificateur pour qu'il répare le temple. Mais pendant que le sacrificateur cherchait à réparer le temple, en nettoyant, en arrangeant, il retrouve le livre. Il retrouve l'écriture. Il retrouve les Écritures dans un livre. Et automatiquement, ils adressent ce livre au roi. C'est l'étape dans laquelle nous sommes. Deux rois, donc, chapitre 22. Lorsque le roi, au verset 11, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ahikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fille de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Quand ils amènent le livre au roi, le roi lit ce qui était dans le livre. Le roi déchire ses vêtements. Il dit, mais nous étions dehors de la volonté de Dieu. Pendant tout ce temps, nous avons vécu comme chacun voulait. On était en dehors de la volonté de Dieu. Il a déchiré ses vêtements. Aujourd'hui, les gens veulent, quand ils prennent la Bible, que la Bible soit en faveur de ce qu'ils font. Ils cherchent les passages qui vont les arranger. Ils cherchent que la Bible les arrange. Mais le roi, quand il a lu, il a déchiré les vêtements parce qu'il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Il a demandé pardon. Il s'est repenti. Et Dieu a dit, puisque tu t'es repenti, les choses seront différentes pour toi. Je jugerai les autres. Mais pour toi, les choses seront différentes. Bien-aimé, aujourd'hui, relis la Bible. Ce que dit la Bible, c'est ce que Dieu dit. C'est la vraie parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais au Maroc, à cause des prédications de bien-aimés qui nous encadraient, j'ai pris conscience que j'étais dans le concubinage et ce n'était pas bon. Et j'ai voulu quitter le concubinage. J'en parle à un autre responsable spirituel, parce qu'on avait plusieurs responsables spirituels. Il y a un qui prêchait la Bible telle qu'elle est, sans ajouter, sans retrancher. Et en l'écoutant, j'ai pris conscience de mon erreur. Mais il y a une autre. Quand je suis parti le voir, il me dit, non, c'est pas grave, Eric. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Ça viendra petit à petit. Moi, j'ai dit, ah. Comme nous tous, on aime la chair, allez. Sans problème, hein. Deuxième fois, je prends encore la décision de quitter le concubinage. Je me retrouve dans une conférence dans une autre ville, dans une convention. J'en parle à un responsable spirituel sur place là-bas. Pareil, oh non, c'est pas grave, tu sortiras. Il y a même un pasteur après qui va me dire, tu sortiras après le mariage, tu sortiras de cela. Et puisque le Saint-Esprit est souverain, tout puissant, un jour, mon cœur a lâché. J'ai compris que je devais suivre, pas ce que les hommes disent, mais ce que la Bible dit. C'est ce que je devais suivre. Bien-aimé, nous sommes dans le temps où tu dois suivre ce que la Bible dit. Ce que disent les hommes doit concorder avec ce que la Bible dit. Si les hommes veulent négocier, toi tu négocies pas. Tu suis ce que la Bible dit. Ta vie dépend de cela. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Quand tu manges le pain et le lait, tu reçois la vie. Mais si tu manges une viande pourrie, tu vas recevoir la maladie. C'est ça que tu vas recevoir. Vaut mieux manger quelque chose de pur. C'est comme ça que tu vas recevoir la vie. Tu sais que c'est garanti. Quand tu prends une boîte de conserve, quand c'est écrit date de fin de consommation, 20 septembre, alors que là on est peut-être le 22 novembre, eh bien il ne faut pas manger. Ce n'est pas parce qu'un courageux mange que toi, tu dois l'imiter. C'est son problème avec son ventre. Toi, tu ne manges pas. Il faut manger les choses pures. Tu es sûr que ça te donnera la santé. La vraie parole, c'est la Bible, bien-aimé. Les Écritures, c'est ça qu'il faut suivre. Et lorsque j'ai été convaincu, j'ai dit non. Même si le pasteur m'a dit que je quitterai après, même si le responsable tel m'a dit ceci, non. Moi, je vais suivre la Bible, je quitte le concubinage. Josias lit les paroles, il décide de changer les choses. Il dit, ce n'est pas ce que nous vivons là. Est-ce que Josias était le responsable spirituel? Non. Il y avait un souverain sacrificateur. Mais Josias, qui était le roi, il lui dit, mais ce n'est pas ce que nous vivons, il y a un problème. Donc, il s'est considéré lui-même comme fautif. Il a dit, allez consulter un prophète ou une prophétesse pour moi parce que je me sens fautif. Je dirige un pays qui est dans l'erreur. Est-ce que ta vie et conforme à ce qui est écrit dans la parole. Ce n'est pas en venant dans une église. Ce n'est pas en suivant un pasteur que tu es qualifié, que tu es approuvé de Dieu. C'est en appliquant ce qui est écrit dans la Bible. C'est l'heure de se repentir. Comme Josias, et de dire, j'ai fait ce que je voulais, je n'ai pas suivi la Bible. Josias, tellement touché, qu'est-ce qu'il fait au chapitre 23? Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi prend la parole. Il lit devant qui ? La Bible dit tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui attendent que les enfants aient 15 ans pour qu'ils lisent la parole. Là, on vient de lire, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il a lu. Et après, il a juré à Dieu d'appliquer ce qui était écrit. Et une alliance a été conclue avec Dieu. Il y a des gens qui prient. Seigneur, je veux que ma femme se convertisse, mon mari se convertisse, mes enfants. Je veux telle chose, j'ai un tel problème. Mais est-ce que tu es dans l'alliance? Est-ce que tu es dans l'alliance? Une alliance est un contrat. Nous sommes en Occident, tout se fait par contrat. C'est comme si tu allais dans une maison d'assurance. Tu vas chez la Maïf ou maison quelconque comme ça, tu viens dire, mais ma voiture a été cognée. Ils vont te dire, monsieur, le numéro de votre contrat. Première question, le numéro de votre contrat. Et quand tu viens crier, ah Dieu, je souffre, il y a un ange qui dit, le numéro du contrat, est-ce que tu es dans l'alliance? Eh bien, si tu n'es pas dans l'alliance, le téléphone est raccroché, c'est ça, hein? Oui, oui. Raccroché, et puis un autre ange qui prend le téléphone, entre dans l'alliance, mon vieux, ou bien entre dans l'alliance, ma chère, voilà. Dieu ne te laisse pas comme ça. Il y a un ange qui raccroche, un autre qui prend le téléphone. Monsieur, madame, entrez dans l'alliance et vous serez protégés contre tous les risques. Amen. Agence tout risque, c'est la Bible. Entre dans l'alliance, bien-aimé. Entre dans l'alliance. Il ne faut pas polémiquer, ah, Dieu nous a laissé. Mais Dieu t'a laissé, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le contrat. Tu n'obéis pas au contrat. Tu n'as pas de contrat. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu viens peut-être dans une église. Tu suis peut-être un pasteur. Déjà, tu sais à peu près que c'est un escroc, mais tu le suis quand même. Tu n'es pas dans l'alliance, bien-aimé. Tu n'es pas dans... Il faut suivre la Bible. Tu as beau dire tout ce que tu veux. Et le Seigneur dit ça dans Ésaïe 59. Ma main n'est pas courte pour bénir, mais ce sont vos iniquités qui m'éloignent de vous. Je peux agir, mais vous n'êtes pas dans l'alliance. Pour être dans l'alliance, c'est un contrat. Tu dis, Seigneur, il y a des paroles, nous allons lire. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Dans le même engagement. Et en retour, qu'est-ce que Dieu fait? Il te protège. En retour, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'écoute quand tu demandes et il exauce. En retour, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne ce qu'il a promis dans sa parole. Parce que tu es dans l'alliance. Parce que tu t'engages à suivre sa parole. Tu t'engages à suivre les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les Écritures. Nous avons vu la différence. Bien aimé, ces gens-là ne manquaient pas de prophètes. Hein. Vous avez vu, hein? Le roi a consulté qui? Une prophétesse. Donc, il y avait des prophètes. Il y avait des souverains sacrificateurs. Il y avait des hommes de Dieu. Mais il n'y avait pas quoi? Les Écritures. Et du moment qu'il n'y avait pas les Écritures, ils étaient dans l'erreur. Même s'il y avait des prophètes, il y avait des souverains sacrificateurs, n'ayant pas les Écritures, ils vivaient quand même dans l'erreur. C'est pourquoi nous nous rappelons du verset que je cite souvent, psaume 11:3, « Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il ? » Donc même si tu es bon, tu es juste, tu as de bonnes intentions, mais quand tu n'es pas basé sur la bonne doctrine, tu seras quand même perdu. Parce que tu ne sauras pas si ne pas payer le ticket, c'est mauvais ou c'est bon. Il n'y a aucune règle. Même si tu es animé de bonnes intentions, tu risques de faire quand même le mal parce qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de fondement. Les Écritures ne sont pas là. On a bien vu souverain sacrificateur, sacrificateur, prophète, il y en avait. Mais on a entendu la phrase du roi, nous avons péché, nous ne nous sommes pas comportés selon Dieu, malgré tous les hommes de Dieu qu'on a. Parce qu'il y a négligence des Écritures. Quand l'Écriture a été trouvée, ils ont lu l'Écriture, c'est là qu'ils sont revenus dans l'Alliance. C'est les Écritures qui constituent l'Alliance. D'abord, les Écritures t'éclairent. L'ange là qui te dit, quitte le péché. Voilà ce que la volonté de Dieu est. C'est les Écritures. Elles t'éclairent, elles te montrent ton erreur. David a dit, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est une lumière, la parole de Dieu. Elle t'éclaire. Et ensuite, elle te propose l'alliance, le contrat. Et quand tu entres dans le contrat, Josué 1,8 nous dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de pratiquer ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quand tu t'engages à pratiquer ce qui est écrit, le Saint-Esprit vient te soutenir et tu vas pratiquer. C'est possible par le Saint-Esprit. Et quand tu fais cela, tu es dans l'Alliance. Les Écritures sont fondamentales. C'est la parole de Dieu. On peut avoir des pasteurs, on peut avoir des docteurs, on peut avoir tout ce qu'on veut. Si on n'est pas attaché aux Écritures, on sera dans l'erreur. Faut être attaché aux Écritures. Il lit à tout le monde et il les fait entrer dans l'Alliance. On va aller rapidement, il n'y a pas beaucoup de temps. Matthieu 4. La puissance des Écritures. Ça sortit tout un peuple de l'erreur. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servir. Amen. Un grand combat. Jésus contre le diable. Le diable attaque pour déstabiliser les convictions de Jésus. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, transforme. Donc, je ne crois pas que tu es fils de Dieu. Prouve-le. Voilà. Est-ce que Jésus entre dans son jeu? Non. Jésus dit, il est écrit. Il lui répond par les Écritures. Le diable est bloqué. Deuxièmement, il vient encore. Ça, c'est la première tentation, c'est quoi? C'est ce que les païens font. Prouver, prouver. Ils combattent les Écritures directement. Mais Jésus dit, il est écrit. La solution se trouve encore dans les Écrits. Oh, il est écrit. Maintenant, ça, c'est lui-même le diable qui dit, il est écrit. Là, c'est la séduction au milieu de nous. Où il y a des fausses prédications, des fausses théories sur Dieu, mais qui ne sont pas compatibles avec la parole. Mais on ne s'en aperçoit pas du coup, a priori comme ça, d'emblée. Mais le Saint-Esprit finit par nous montrer que ça, ce n'était pas de Dieu. Et Jésus répond comment? Il est écrit. Troisième tentation. Je vais te donner toutes ces choses. Prosterne-toi. Jésus dit, va-t'en. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit après? Le diable le laissa. Est-ce que Jésus a fait des sauts périlleux? Est-ce que Jésus a gigoté, a sauté pour que le diable fuit? Il lui a rappelé la parole. Apocalypse 12, 11. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ce n'est pas seulement à cause du sang de l'agneau, mais en témoignant ce que la parole dit de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le diable ne peut pas résister. Ce n'est pas en consultant des serviteurs de Dieu comme si c'était devenu des voyants qu'on trouve la solution. Je ne suis pas contre qu'on reçoive de l'aide des serviteurs de Dieu, mais une aide conforme aux Écritures. Et ce serviteur-là va te donner des versets liés à l'écriture, aux écritures, que tu vas pratiquer et tu vas voir le diable fuira. Tu vas voir ton problème finira. Les gens cherchent des solutions en dehors de la Bible. Il n'y en a pas. Jésus lui-même, fils de Dieu, il a utilisé la Bible, il a utilisé les écritures pour vaincre le diable. Et toi, tu veux utiliser quoi pour vaincre le diable? C'est les écritures. Il est écrit. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Bien-aimé, il y a des gens parfois qui entrent dans mon bureau, ils ont raison. Quand ils viennent avec leurs problèmes, c'est comme si c'est eux qui avaient raison. Et donc, comme ils ont raison, pasteur, il faut que tu pries ton Dieu doit m'exaucer parce que c'est moi qui ai raison. Moi, je prends la Bible, je démontre qu'ils ont tort. Au lieu d'harceler le Seigneur, qui commence d'abord par se repentir, ensuite on passera à l'autre étape. Parce que je sais que la solution ne vient toujours que il est écrit. Commence-toi par honorer ce qui est écrit. Et ce qui est écrit arrangera ton problème. Parce que moi, pasteur, je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune force. Tout ce que je fais, ça vient de Dieu. Et moi, je n'ai rien du tout. Je ne suis qu'un robinet, un tuyau. Ça passe seulement. Le robinet ne produit pas l'eau. Il fait passer l'eau. Voilà ce que nous sommes. Alors, croire qu'on peut trouver une solution différente qui ne vienne pas de la Bible, c'est se tromper, croire que mon imposition des mains réglera tes problèmes. Ça réglera tes problèmes si tu respectes ce qui est écrit. Si tu ne respectes pas ce qui est écrit, on a beau imposer même les pieds, les genoux, ça ne marchera pas. Il faut obéir à ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ça, bien-aimé. Le pasteur n'a aucune puissance. La puissance qu'il a, c'est en fonction de ce qui est écrit. Si ce qui est écrit n'est pas respecté, il n'a rien du tout. Voilà, bien-aimé. Jésus a gagné par la Bible, par les Écritures. Nous qui avons des projets, nous qui avons des combats, eh bien, nous connaissons le moyen de gagner, les Écritures. Luc 16, à partir du verset 19. La victoire sur la tentation, c'est les Écritures. Le Seigneur a les solutions dedans. Lorsqu'on les lit et on croit, la puissance de Dieu se manifeste. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse vie, joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Amen. Ça, c'est un passage capital pour la foi d'un chrétien. Jésus dit par là, si quelqu'un n'écoute pas ce qui est écrit, parce que quand il dit Moïse et les prophètes, à l'époque Moïse et les prophètes n'existaient plus. Ils n'étaient plus là. Ils sont déjà morts depuis longtemps. Mais quand il dit s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc s'il n'écoute pas ce qui est écrit, ce n'est pas un mort qui ressuscite qui va le changer. Beaucoup de gens disent, oh, je sens la paix de Dieu. Oui, mais si tu n'as pas écouté ce qui est écrit, c'est une fausse paix. Et même nous, quand on était dans le monde, parfois on sentait ce genre de paix-là. Donc on était plutôt incroyant. Donc je sens, mais Dieu m'approuve, je sens la vie. Non. Le punch, ce n'est pas forcément Dieu. Donc quand on était dans le monde, avant certains matchs ou certains concerts, on sentait ce punch-là. Donc ce n'est pas quelque chose exclusif à Dieu. Satan peut faire sentir aussi ces choses-là. La chair aussi peut se fortifier toute seule comme ça. Pour savoir si tu es dans le plan de Dieu, il faut respecter ce qui est écrit. Écoutez Moïse et les prophètes, ce qui est écrit. C'est ainsi que tu sauras si tu es dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que tu sens. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit par prophétie. Est-ce que tu respectes ce qui est écrit? C'est ça la grande question. Pose-toi cette question. Et à l'inverse, il y a des chrétiens aussi qui sont mal à l'aise. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas ce qu'ils devaient avoir. Tout simplement parce qu'ils veulent tricher les autres. Ils veulent imiter les autres. Ils veulent faire comme ils voient ailleurs. Moi, je dis, pour savoir si tu es bien avec Dieu, vérifie ce qui est écrit. Est-ce que tu obéis à ce qui est écrit? Que tu sois dernier, que tu sois premier, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois dans l'alliance. Tu obéis à ce qui est écrit, Dieu est avec toi. Même si tu parais être le dernier, sois heureux du moment que tu obéis à ce qui est écrit. Ne cherche pas à imiter les autres. Ne cherche pas à satisfaire les convoitises de la chair qui veulent te dire que si tu as un tel don spirituel, si tu as telle bénédiction matérielle, si tu as un tel poste à l'église, c'est là que tu es un vrai. Non, c'est faux tout ça. Pour être un vrai, il faut juste suivre le Seigneur dans l'obéissance à sa parole. On est dans l'alliance et Dieu s'occupe de nous pour l'avenir. C'est tout ce qu'on doit vérifier, bien-aimé. Ce monsieur pensait qu'il y avait des solutions en dehors de la parole. C'est ce qui est dans l'imaginaire de nous tous. Parfois, on prie, on dit, Seigneur, s'il y avait un miracle, il va croire. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre méthode. C'est les Écritures. Après, Dieu peut attirer les gens par des miracles. Il peut bénir les gens. Parce que parfois, ce n'est pas pour attirer. Ce n'est pas pour interpeller, mais c'est pour manifester sa bonté par des miracles. Mais ce n'est pas ça qui peut changer quelqu'un. Nous sommes chrétiens, ça fait un moment, et nous avons vu des gens expérimenter des miracles et en faire. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans la foi. C'est la foi dans les Écritures qui fonde quelqu'un. C'est clair. Que personne ne nous trompe. La solution dans la vie d'un homme, le salut, ne se trouve pas en dehors de la soumission à la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est toujours dans les Écrits. Vous imaginez, Abraham, il répond à cet homme-là, même si quelqu'un ressuscitait des morts. Ces gens-là ne croiraient pas. S'ils ne croient pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit a plus de puissance que pour toucher le cœur de quelqu'un que lorsque quelqu'un ressuscite des morts ou qu'il y a les miracles. Voilà la clé de la marche chrétienne. Ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu, c'est elle qui nous a créés. Bien-aimés, l'alliance avec Dieu, c'est croire que ce qui est écrit, c'est sa parole. Hébreux 11 dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas prétendre être chrétien. Et douter sur le fait que, par sa parole, Dieu a créé les astres, les étoiles, la lumière, tout ça. Si tu doutes de ça, si tu continues encore à suivre l'évolutionnisme, tu as un problème. La vraie foi, c'est croire que tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. C'est ça la vraie foi. La parole, qui est maintenant consignée, et on appelle ça les Écritures, c'est ça qui donne la puissance, c'est ça qui transforme les vies. Les miracles peuvent toujours impressionner, attirer, peuvent toujours être des bénédictions, mais c'est la parole, c'est les Écritures qui transforment les vies. On a vu le réveil avec Josias, parce que quand Josias a été touché ainsi, il y a eu un réveil en Israël. Il a fait l'une des plus grandes fêtes de Pâques qui n'ait jamais été faite. Il y a Josias et Ézéchias qui ont fait les plus grandes fêtes de Pâques avec Salomon, parce que la parole était revenue. Et les choses ont changé, bien-aimés. Les Écritures ont été respectées et les choses ont changé. Il n'y a point de solution, point de salut en dehors de la soumission à la parole. Ne rêvons pas, bien-aimés. Les systèmes chrétiens ne sauvent personne. Les modes chrétiens ne sauvent personne. Les pasteurs chrétiens ne sauvent personne. C'est la soumission à la parole de Dieu, aux Écritures qui sauvent. Parce qu'il y en a qui vont vous mentir pour vous dire, mais oui, mais... La parole de Dieu, c'est aussi ce qu'a écrit le livre de quelqu'un. Non, le livre de quelqu'un parle de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est les Écritures, c'est la Bible. Maintenant, un livre, une prédication, comme nous prêchons là, ça peut édifier quelqu'un, mais cette édification est basée sur ce que dit la Bible, mais qui est répété par cette personne-là. C'est ça les Écritures, c'est les Écritures qu'il faut suivre, bien-aimés. Il ne faut pas suivre notre... Il y en a qui suivent aussi leur intelligence. Moi, je crois que si j'aime quelqu'un on s'embrasse du fait que je l'aime, donc ce n'est pas un péché. Donc, il suit son intelligence. Donc, il croit que parce qu'il n'a pas de mauvaises intentions humaines, donc ce n'est pas un péché. Moi, je te dis que c'est un péché. On n'est pas embrassé que quand on est marié. Amen. Moi, je vais même plus loin. Quand tu n'as pas d'intention d'épouser quelqu'un, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Donc, aimer, ça va, je parle de hommes et femmes, hein, ça va avec le mariage. Donc maintenant, on est des humains, ça peut venir avant. Alors, quand il n'y a pas de projet, on résiste et on chasse la chose. Amen. Bon, si maintenant il y a un projet, démarche. Voir les parents, voir les concernés, responsables spirituels, on table la chose. C'est ainsi que nous restons dans la parole de Dieu, bien-aimés. Le mariage seul est considéré dans la parole de Dieu. Ce sont des choses que beaucoup ont négligées et ça a amené des désordres. Dernièrement, on a vu à la télé un pasteur haïtien qui a violé des petites filles. Parce qu'il y a des désordres. Les gens négligent la vérité. Eh bien, Dieu va vous montrer que cette négligence est grave. Dieu va vous le montrer. Il n'y a pas de salut en dehors de la parole de Dieu, en dehors des Écritures. Luc 24, pour clôturer. Verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence !» et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village, où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Jésus lui-même, présent, ces gens n'ont pas reconnu. Leur cœur n'a pas bouillonné, n'a pas brûlé. Mais quand Jésus a commencé à leur expliquer les Écritures, comment les Écritures parlent de lui et Jésus, leur cœur a commencé avoir de la joie. Vous vous souvenez de Corneille? Il était là, en train d'écouter Pierre citer les Écritures, expliquer comment dans les Écritures on avait prévu que Jésus viendrait pour le salut des humains, de l'homme, de l'humanité. Et Corneille, ils étaient là en train d'écouter. Bien aimé, les gens cherchent de parler en langue en faisant des sauts périlleux. Mais lui, il était là en train d'écouter la parole avec avidité, avec soif. Il écoutait le merveilleux dessein de Dieu pour l'humanité. Bien aimé, en écoutant ça, la Bible dit la puissance du Saint-Esprit tombait sur lui, il a commencé à parler en langue. Bien aimé, Dieu est attiré par ceux qui ont soif des Écritures. Quand tu aimes les Écritures, la puissance de Dieu vient sur toi. Jésus-Christ leur expliquait, vous voyez, Moïse parlait déjà de moi dans Deutéronome 18. Il s'agit de moi, le prophète qui devait venir, que tout le monde devrait écouter. Vous voyez, dans Michée 5, on parle de moi, Jésus devait naître à Bethléem. Dans Isaïe 53, on dit qu'il devait souffrir. Qui a cru à ce qu'on a entendu? Jésus leur expliquait tout ça. Et dans Isaïe 53, à la fin, la Bible dit qu'il connaîtrait une postérité. Donc, je ressusciterai. Jésus devait ressusciter. Il leur expliquait les Écritures. Et ces gens-là, quand ils écoutaient les Écritures, leur cœur était en train de brûler. Quelle belle nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Ils étaient en train de brûler. Bien-aimés, les Écritures, la parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est merveilleux à lire. Quand tu lis ça dans la connaissance, dans la conscience que c'est la parole de Dieu, tu es transformé. Tu es transformé, tu es changé. Jésus dit, c'est de moi qu'on parle. Et quand tu lis ça, tu vas discerner Jésus dans toutes les Écritures. Il s'agit de lui. Dans toutes les Écritures, c'est lui la raison d'être des Écritures. Pourquoi il y a les Écritures? Jean nous donne la réponse dans Jean au chapitre 20. Il dit tout ceci a été fait, tout ceci a été écrit, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus est la raison d'être des Écritures. Si en lisant les Écritures, tu commences à chercher comment tu vas devenir un grand pasteur, comment tu vas devenir un grand imposeur de main, un grand guérisseur chrétien, donc tu n'as pas compris les Écritures. Si tu commences à lire les Écritures, tu cherches comment tu auras ta maison, comme tu n'as pas compris les Écritures. Les Écritures ont pour objectif Jésus. Et quand tu comprends Jésus, tu as tout le reste, bien-aimé. Tout le reste vient tout seul. Après, tu peux demander tout le reste en confiance parce que tu as discerné l'essentiel. Tu as discerné que les Écritures, c'est Jésus. Alors, je peux demander une maison à Dieu sans problème parce que Jésus a payé à la croix pour que moi, je sois réconcilié avec mon Père. Maintenant que je suis réconcilié avec lui, je peux lui demander ce dont j'ai besoin. Mais je ne fais pas de la parole un moyen d'obtenir l'exaucement de tous mes caprices. Mais je fais de la parole un moyen d'entrer en relation avec mon Père. Et dès que je suis dans sa relation, dans sa présence, je peux maintenant, il me donne tout ce que je veux parce qu'il est mon Père. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et ces Écritures-là nous aident maintenant à faire de l'Éternel nos délices. Et ensuite, nous avons tout ce que nos cœurs désirent. Bien-aimé, qu'est-ce que t'as apporté? Les Écritures, ça t'a apporté des projets personnels. Il y a un problème. Les Écritures doivent t'amener à aimer Jésus et à t'attacher à lui. Et de là découlera le reste. Bien-aimé, c'est beau la parole de Dieu. C'est beau les Écritures. Et c'est puissant. Jésus a dit aux gens, c'est écrit, je vais souffrir, mais le troisième jour, je ressusciterai. Et ça s'est accompli. C'est écrit. Habacuc 2, il est écrit. Grave cette prophétie. Écris cette prophétie. Parce que son terme est fixé. C'est comme si Dieu nous disait, encore ce seraient des paroles à l'air. Je suis comme quitte. Mais puisque je m'engage et que c'est écrit, donc je suis obligé d'agir. Vous comprenez l'idée de Dieu d'Habacuc 2? Il dit à Habacuc, grave cette prophétie. Parce que son terme est fixé, ça va s'accomplir certainement. Alors, pour prouver vraiment que ça va s'accomplir, écrit. Comme ça, je suis comme lié et personne ne me prendra en défaut. Vous savez, aujourd'hui, les gens font des promesses comme ça en l'air. Un jour, vous les rappelez. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Mais Dieu a dit, écrivez. Vous pourrez toujours me dire, mais tu avais dit ça. Je suis sûr d'accomplir, c'est pourquoi je vous demande d'écrire. Les Écritures, c'est l'assurance que la parole de Dieu est nôtre maintenant. Puisqu'on peut dire à Dieu, c'est écrit. Donc, elles deviennent autres. Saisissons-nous des Écritures. Considérons réellement ce qu'elles sont, la parole de Dieu. Laissons-les transformer nos vies en nous amenant à un attachement total à Jésus-Christ. Nous verrons le changement. Et bien aimé, dans Apocalypse, c'est écrit au chapitre 20. Tout sera clôturé par les Écritures. La Bible dit, à la fin, il y aura des livres qui vont être ouverts. Les livres de vie, tous ceux qui sont dans les livres de vie, dans ces Écritures-là, eh bien, iront au ciel. Tous ceux qui n'ont pas été retrouvés dans les livres de vie sont partis en enfer, dans le feu éternel. Alors, si tu veux vivre le ciel, commence par le livre de vie qui est la Bible. Ensuite, ton nom sera inscrit dans le livre de vie qui est au ciel. Amen. Que Dieu soit béni, nous allons prier. Merci Seigneur de nous avoir montré que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Les Écritures sont ta parole et elles contiennent la puissance de salut, la puissance de transformation, la puissance de délivrance, la puissance de nous faire réussir les projets que tu nous as donnés, Seigneur. La puissance de nous faire quitter le péché. Ta parole a tout cela. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous pardonner, Seigneur, d'avoir négligé les Écritures au profit des systèmes chrétiens, au profit des prétendues théories nouvelles. La Bible pourtant dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais il y a des gens, Seigneur, aujourd'hui qui disent qu'ils sont de nouveaux apôtres, d'un genre nouveau. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des théories nouvelles en ce qui concerne la Bible. Non, il n'y a pas de théorie nouvelle, Seigneur. Nous croyons qu'il n'y a que la Bible, ta parole. Ta parole que toi-même, Jésus, étant vivant sur terre, tu as utilisée. À combien plus forte raison nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à revenir aux Écritures afin de fonder notre vie et de nous laisser transformer, être perfectionnés pour te servir à 100%. Merci Seigneur de parler à chacun à travers les écrits. Que ce soit notre contrat avec toi, ces écrits-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole. Donné aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole, alléluia.
Merci pour ta
vérité
sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider
et faire ta volonté. Je crois en tes promesses, Seigneur.
Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon
Elle
est la vérité.
La vérité.
Sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans espérant dans ta bonté.
Merci Père, merci Père, de nous aider à nous accrocher aux écrits. Au nom de Jésus-Christ, à nous accrocher aux écrits, Seigneur.